Interview.
Bonjour, ici Hardy Voix et c'est l'heure de l'interview avec Monsieur Philippe Bernold. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Bernold, vous êtes avec nous pour nous annoncer Festival Mozart dans la Drôme qui aura lieu du 5 au 19 juillet. Donc avec une thématique cette année, ça sera Wolfgang et Marie-Antoinette. Parmi les interprètes présents, donc il y aura vous avec la flûte traversière. Il y aura également Raphaël Pidou au violoncelle et Anaïs Godemar. Ça sera pour la date du 12 juillet avec l'élégance classique sous le soleil de la Drôme. Alors au concert, il y aura au programme Jean-Louis Duport pour un concerto pour violoncelle soliste, donc interprété par Raphaël Pidou. Ensuite, Wolfgang Amadeus Mozart, un concerto pour flûte et harpe soliste, donc avec vous, Philippe Bernold à la flûte et Anaïs Godemar. Et pour finir, Wolfgang Amadeus Mozart, première symphonie.
Alors, oui, le programme comporte également la première symphonie que Mozart a écrite à l'âge de 8 ans.
Et ce partage de la passion pour Mozart, c'est un festival qui se renouvelle chaque année. Hein. Ça se situe à Sceaux, hein, je crois, quand même.
Alors, c'est dans toute la Drôme, mais on a, disons que l'histoire du festival a démarré à Sceaux, dans ce charmant village.
Et pour vous, il y a donc cette série de concerts avec des interprètes et des compositeurs, enfin des interprètes qui viennent principalement de quel secteur de la Drôme, de la région ?
Enfin, il y en a aussi, hein, bien sûr, il n'y a pas d'exclusive, mais c'est plutôt un festival international où nous faisons venir des artistes un peu de partout. Enfin là, cette année, essentiellement de France, puisque le sujet qui est traité, c'est Mozart et Marie-Antoinette. En fait, c'est, pour être plus clair, c'est les voyages que Mozart a fait d'abord très jeune, puis à l'âge de 21 ans, quand il a visité notre pays. Voilà.
Ce choix de composition répond à quelle envie ?
Eh bien, elles répondent à la thématique, donc celle que je vous ai dite, c'est-à-dire Mozart est venu à Paris, donc il a forcément écrit de la musique à Paris, c'est celle-là qui va être jouée. Donc si vous voulez, on part du thème. Le thème engendre des œuvres, et les œuvres engendrent des interprètes. Enfin, donc moi, je me plais d'abord à faire la liste de ce qui va être joué, et ensuite je me dis quels sont les interprètes qui seraient les plus à même qui serait prêt à jouer ces morceaux-là que j'ai prévu de faire découvrir ou de faire réentendre ou de faire entendre au public qui, lui, du coup, à la fois se divertit et s'instruit parce que finalement, il y a aussi une petite donnée pédagogique, c'est-à-dire que voilà, on présente un certain travail qu'a fait un compositeur à un certain endroit, à un certain moment de sa vie. Et on s'y plonge, et c'est assez passionnant, je dois dire.
Alors, dans quel contexte se déroulera ce festival qui débute le 5 juillet, donc ?
Alors, il est structuré géographiquement. Il y a le premier week-end, donc qui en effet démarre le 5, on est vraiment dans le village de Sceaux, avec d'ailleurs une manifestation off, c'est-à-dire le dimanche 5, il y aura autre chose que de la musique classique dans le village, il y aura des performances, il y aura tout un tas de choses. Mais le matin et le soir du 5, il y a deux concerts importants. Le premier s'appelle le lever de soleil. C'est un concert maintenant qu'on fait tous les ans et qui est assez passionnant parce que il est à 7h du matin. Et c'est en général, c'est d'ailleurs depuis toujours, un récital de piano. Cette année, ce sera une combinaison piano-accordéon. Et il a lieu dans un endroit incroyable ou devant un champ de lavande. Et croyez-moi qu'au début, on avait des doutes. On s'est dit, mais qui est-ce qui va venir à 7h du matin ? Eh bien, figurez-vous qu'on est à plus de 200 personnes qui viennent pour ce concert. Donc, c'est très réjouissant. Le soir, il y a un concert dans le même lieu qui s'appelle le Château d'Eur, qui est un lieu privé d'ailleurs, mais qui est à Soult, dans le village de Soult, avec une thématique très particulière. Alors, autant je vous disais que le sujet exploré cette année, c'est Mozart en France, et là, c'est une proposition un peu délirante qui s'appelle le voyage imaginaire de Mozart au Japon. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus parce que ce serait d'abord trop long, mais c'est un peu loufoque, mais c'est un concert qui ne l'est pas du tout puisque le concept est loufoque, mais la musique qui va être jouée ne l'est pas du tout. C'est la musique de Mozart qui est entrecoupée par de la musique japonaise. Et donc, le deuxième week-end se situe justement dans la vallée de la Drôme, avec le village de Saillant. On ne vient pas jusqu'à Die, on en est bien désolé d'ailleurs, le village de Saillant, où seront donnés précisément ce concert dont on parle, c'est-à-dire le concert avec le concerto pour flûte et harpe. Et le troisième week-end sera, donc aux alentours du 18, sera dans le sud de la Drôme, du côté de Suse-la-Rousse, du côté de Saint-Restitut, du côté de Grignan, même si cette année on ne donne pas de concert à Grignan. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que le public se retrouve géographiquement et aussi puisse, comment dirais-je, se sédentariser dans un de ces trois lieux.
Ce voyage imaginaire de Mozart au Japon, comment s'est-il élaboré? Vous parliez donc d'extraits de ses compositions et aussi d'interventions musicales issues du Japon. Comment s'est agencé cette articulation?
Alors, c'est un concert que je n'ai pas imaginé moi, mais qui a été proposé par un groupe, un trio. Un trio, le trio Georges Sand, qui est constitué d'un violon, d'un violoncelle et d'un piano, et qui ont fait appel à un écrivain qui a écrit des lettres apocryphes, elles ne le sont même pas, elles sont totalement imaginaires. Ce sont des lettres que Mozart aurait écrites s'il avait été à son père, hein, puisque Mozart écrivait beaucoup à son père dans tous ses voyages. On a un témoignage assez passionnant de tout ce qu'il a fait, puisqu'il écrivait à son père. Donc, le voyage qu'il aurait fait au Japon, il écrivait à son père. Donc, ces lettres imaginaires vont être lues par le grand comédien Didier Sandre, lui-même sociétaire de la Comédie française, et sera illustré par ces trois musiciennes du trio Georges Sand, avec des musiques que Mozart a écrites, évidemment pas au Japon, puisqu'il n'y est jamais allé. Et il y a quand même, entre tout cela, une artiste japonaise qui joue du koto. Le koto, c'est une harpe japonaise. Et il nous a semblé intéressant, d'ailleurs, d'inviter ce groupe de quatre musiciennes parce que, justement, la harpe que jouait Marie-Antoinette, là, c'est un petit clin d'œil, c'est la harpe japonaise, mais il faut savoir que quand on parle de Mozart et de Marie-Antoinette, on parle du voyage de Mozart en France, mais aussi de la présence de cette souveraine qui jouait de la harpe, d'une part, et surtout, qui était une grande protectrice des arts. Voilà en gros comment ça va se passer.
Donc, avec le trio Georges Sand, c'est-à-dire Virginie Buscaille au violon, Diana Alighetti, violoncelle, Annise Gastaldi au piano. Et puis, il y aura également la participation de Violaine de Spérou pour l'alto.
À l'alto, oui.
Mieko Miyazaki pour le koto, comme vous l'avez indiqué, et Didier Sandre avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 propositions musicales à écouter et à découvrir.
Exactement.
Ensuite,
je ne voudrais pas décevoir vos auditeurs, mais il doit rester 3 places à vendre. Enfin, c'est un programme qui est vraiment qui a beaucoup de succès. Donc, il faut se précipiter, si je puis dire.
Et c'est tant mieux. Lundi 6 juillet, donc, c'est le second jour avec une balade musicale en forêt. Donc ça, c'est une proposition d'écoute, j'imagine, qui a lieu à 10h hein, en matinée, avec toujours Mieko Miyazaki au koto.
Exactement. Et, alors ça, c'est très original, oui. Parce que tous les ans, on fait la balade musicale, que d'ailleurs la plupart du temps j'anime en tant que musicien et orateur aussi. Et là, cette année, malheureusement, je ne serai pas là, mais ce sera la joueuse de koto. Et ça va être très original de... Alors, comment ça se déroule? Les gens marchent et à la fin de cette randonnée, il y a un concert dans une clairière. Et là, ce sera tout à fait singulier d'entendre un koto dans la forêt de Sous. Ce sera certainement une première mondiale.
À suivre. Alors, donc, ça sera un après-midi avec Mozart.
Voilà, alors l'après-midi, c'est un concert plutôt jeune public qui est élaboré par une association qui s'appelle La Clé des Chants et où il y aura d'une part une petite causerie sur la musique classique par Sophie Mischka et ensuite une réduction de la flûte enchantée de Mozart pour quelques chanteurs et quelques musiciens, quelque chose qui est accessible à un jeune public. Et le soir, nous avons le concert dans la forêt. Mais là, il y a peut-être un risque, il faut l'annoncer à vos auditeurs, qu'il soit déplacé, ce concert, parce que la sécheresse, et on le saura d'ailleurs aujourd'hui, la sécheresse fera qu'éventuellement la forêt sera fermée par décret préfectoral, parce que la sécheresse est trop importante. Mais des solutions sont en train d'être trouvées, mais ce sera toujours dans le village de Sous, à un endroit, probablement à la place des Cagnards. Je ne peux pas vous en dire plus, puisque l'arrêté préfectoral va sortir aujourd'hui. Donc on est tous dans l'attente de savoir si le concert du soir se fait en forêt, avec le pianiste de jazz Thomas Enko, ou à Sous village.
Autrement, à suivre le 6 juillet à 19h, ça sera Mozart par Paradoxe. Donc, ça sera proposé par Thomas Enko.
Enko.
Et qui sera au piano. Il est jazzman lui-même. Donc, il aura aussi cette libre inspiration de jouer avec Mozart.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il fait il se réapproprie les principaux thèmes de Mozart et il les arrange dans des versions jazz dont il a le secret.
Et puis, nous passons au vendredi 10 juillet, et ce sera avec vous, Bernold et Friends. Ça sera au château de Vacher. Alors, qu'est-ce qu'on pourra y découvrir dans cet instant, et avec qui?
Alors, ce sera un concert de musique de chambre, entre parenthèses, entre guillemets, autour de moi, mais bon, c'est un peu prétentieux de le dire ainsi. Ce sera plutôt autour d'un pianofortiste. Alors, là, vos auditeurs doivent savoir que était prévu Justin Taylor. Malheureusement, Justin Taylor est assez gravement malade et il sera remplacé par un merveilleux musicien espagnol, catalan, qui s'appelle Eloy Orzaiz. Et Hanna Salzenberg au violoncelle, donc un concert en trio avec de la musique française de l'époque de Mozart et quelques partitions naturellement de Mozart écrites à Paris.
Pianofortiste, comment peut-on définir cet instrumentiste ?
Le pianoforte est l'ancêtre du piano. Si vous voulez, c'est l'instrument qui est entre le clavecin et le piano. C'était on jouait du clavecin du temps de Mozart et du pianoforte. Le piano moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. C'était le pianoforte.
Et quelle est la différence avec le piano moderne?
C'est un piano. Alors, c'est déjà les cordes sont frappées Il est de plus petite dimension, il a une autre sonorité. Il est assez proche du piano moderne, mais ça n'est pas encore tout à fait le piano moderne. C'est une sonorité un peu plus pincée, un peu plus contenue. Ça a un charme fou.
Voilà, et ça se passera donc 2189 route du Château à Montclar-sur-Gervanne. J'inviterai les auditeurs aussi à se rendre sur le site internet de ce festival Mozart et vous y trouverez tous les renseignements. Pour la suite, il y aura cette balade musicale à Cré également le 11 juillet à partir de 17h. Ça se passera à la Chapelle des Cordonniers avec 14 montées des cordonniers. Comment se déroulera donc cette proposition ?
C'est une proposition nouvelle qui est une proposition itinérante, c'est pareil. Le public sera amené à suivre les musiciens et nous irons sur 3 sites différents dans la ville de Cré qui nous invite. Et Raphaël Feuillâtre et puis Aurélien Pascal Violoncelle illustreront, enfin feront les 3 stops de cette promenade.
Nous amenons aussi une nouvelle proposition, ça sera de Bach à Piazzolla, ça sera le 11 juillet à 21h.
Oui, ça c'est le soir. Oui, absolument. Alors là, ce ne sera pas à Cré, ce sera à, rappelez-moi, à Autichamp, voilà. Ce sera à Autichamp, dans un très joli château, où il y aura un concert alors plus traditionnel, plus classique, avec ces 2 artistes.
Oui, voilà. Ce sont des artistes qu'on va retrouver sans cesse hein, dans ces propositions, dans de suite de concerts. Hein. Ensuite, voilà. Il y a ce concerto pour flûte et harpe, avec vous-même d'ailleurs, Raphaël oui. Pidou au violoncelle et Anaïs Godemar à la harpe.
Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on lui laisse la primeur de le présenter, puisqu'il le connaît, ce concert, puisque je viens de le donner avec Raphaël Pidou hier à Paris. Voilà.
Très bien. Et puis, donc, il y a le Quatuor Modigliani.
Modigliani. Alors là, on est dans la 3e partie du festival, donc dans le sud du département. Donc à Suze-la-Rousse, d'une part, avec ce très, très grand quatuor français qui est le Quatuor Modigliani. Là, c'est pareil, il reste très, très peu de place à acheter. Et puis après, il y a un week-end à Saint-Restitut qui est passionnant autour du grand pianiste français Alexandre Tarot. C'est un événement qui se déploie en 3 parties. Un premier concert dans la carrière de Saint-Restitut à l'acoustique exceptionnelle. C'est en plein air, mais c'est dans une carrière de pierre. Avec l'orchestre, le concours de l'orchestre d'Avignon, que j'aurai le plaisir de diriger. Et Alexandre Tarot sera en soliste pour un concerto. De Mozart. La deuxième partie, ce sera le même jour, le soir, alors ça c'est tout à fait passionnant et nouveau, un concept de concert couché, où le public est couché, alors il y a une très petite jauge, hein, une 50aine de personnes, les gens sont couchés sur des, pas même le sol, mais sur des espèces de matelas de sport, hein, si vous voulez, et Alexandre, moi-même à la flûte, et puis quelques artistes de l'orchestre d'Avignon, joueront dans la quasi-obscurité et Alexandre parlera aussi et tout ça dans une forme très relaxante. Voilà. Et le lendemain, pour finir le festival, nous aurons un grand récital de piano d'Alexandre Tarot qui ira de Rameau, donc compositeur français, à Ravel, compositeur français en passant par Mozart. Donc une espèce d'illustration de la musique française d'avant Mozart et d'après Mozart pour clôturer ce festival donc autour de Mozart et de la France. Voilà.
Autour de ces propositions de concerts, est-ce qu'il existe aussi des moments de convivialité avant et après ces récitals ?
Oui, nous avons alors des propositions de restauration, nous avons un petit bar. Évidemment, c'est un festival qui a vocation à être à la fois savant, mais populaire aussi, où tout le monde s'y retrouve, et surtout où le public n'a pas besoin d'imaginer d'être des initiés ou des spécialistes, ou des connaisseurs pour aimer la musique de Mozart. Mozart, c'était un compositeur très spontané et qui s'adresse à tous les cœurs. Et Vraiment, tout le monde est bienvenu, quel que soit son niveau d'éducation. Il n'y a absolument aucun prérequis de culture ou de quoi que ce soit. Et tout ça se fait dans beaucoup de convivialité, de bonne humeur. Le festival, qui est assez ancien maintenant, il fête sa 38e année, c'était intitulé d'ailleurs au tout début « Mozart sans cravate ». Et on n'a jamais failli à ce slogan. Le festival reste un festival décontracté.
Au-delà de tous ces concerts, il y a aussi un rendez-vous pour une conférence par Patrick Barbier. Et qui voilà. Proposera donc ce rendez-vous manqué avec Marie-Antoinette et Mozart. Donc, dans quel contexte proposera-t-il cette conférence ? Est-ce qu'elle s'établit sur des faits avérés ou des notes d'historiens ?
Oui, alors, c'est un historien et un écrivain, un musicologue. Il faut savoir que Mozart a rencontré Marie-Antoinette lorsqu'elle était, parce qu'elle avait le même, ils avaient le même âge. Il a rencontré Marie-Antoinette quand il était allé jouer à la cour de Vienne, et elle était l'enfant du souverain, et elle est devenue reine de France. Et quand il est venu à Paris, c'est un rendez-vous manqué en effet, puisque une fois qu'elle était reine et que Mozart était en France, il ne l'a hélas jamais rencontré. Pourquoi, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, l'occasion ne s'est pas présentée.
Festival Mozart dans la Drôme, c'est une transformation de Mozart chante Mozart, une évolution. Donc, cela fait combien d'années qu'existe ce festival ?
Ça fait 38 ans qu'il existe et j'ai eu le plaisir d'en faire partie dès la première édition.
Voilà. Et vous-même êtes le directeur de cette organisation, artistique. Et c'est une activité qui vous prend pas mal de temps en préparation.
Oui, ça prend beaucoup de temps et je le fais de manière bénévole.
Et au total, il y aura combien de musiciens présents pour ces représentations ?
Je n'ai pas fait le compte parce que ça dépend si on compte les orchestres, les musiciens d'une... Je dirais une soixantaine de musiciens minimum, voilà.
Très bien. Entendu. Je vous laisse.
Merci, monsieur.
Voilà, bonne fin de journée.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir. Raphaël Pidoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc un des musiciens qui sera présent pour ce festival de Mozart dans la Drôme. Et vous-même êtes violoncelliste et vous ferez partie de ce trio de musiciens qui proposera donc un concert pour flûte et harpe. Cette composition donc sur une musique de Mozart, mais peut-être pas que, quels sont... le travail qui vous a amené, parce que je crois qu'il y a aussi un accompagnement d'une quinzaine de musiciens.
Alors exactement, on a créé donc un ensemble de jeunes musiciens, de jeunes talents, pour nous accompagner dans le concerto de Mozart pour flûte et harpe, et moi-même je jouerai un concerto du violoncelliste de l'époque de Mozart qui s'appelle Duport, et qui avait une étroite relation avec tous les grands compositeurs de l'époque, notamment Mozart. Et nous allons jouer donc ces concertos qui sont des chefs-d'œuvre du répertoire, accompagnés par des jeunes musiciens, quasiment tous issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et en plus de ça, la mission, c'est que j'ai créé un fonds de dotation qui s'appelle « Talents et violoncelles », et qui en fait sert notre savoir-faire, c'est de prêter des instruments à ces jeunes musiciens. Vous savez que le violon, l'alto et le violoncelle, c'est devenu quasiment inaccessible pour tous les musiciens, y compris professionnels, parce que ça devient tellement cher. Et donc on a créé un fonds d'instruments grâce à des mécènes qui permet aux musiciens de s'exprimer sur des instruments à la hauteur de leur talent.
D'ailleurs, vous-même, vous jouez sur un violoncelle de Goffredo Cappa de 1680. Alors, saluzzo, ça signifie quoi, saluzzo?
Alors, saluzzo, c'est une petite ville promontoire magnifique, comme souvent les villes dans leur jus en Italie. C'est sur les... non loin de Turin, face aux montagnes du Piémont. Et effectivement, au XVIIe siècle, il y avait un luthier Cappa qui construisait des instruments magnifiques à l'époque. Voilà, ce sont des témoignages de la lutherie du passé. Fort heureusement, la tradition continue. Et donc, il y a énormément de luthiers maintenant qui construisent des instruments magnifiques qui seront les futurs grands instruments dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Vous savez, on ne peut pas connaître la durée de fin de vie d'un instrument à cordes, puisque plus ils sont joués, et meilleurs ils sont, et plus ils sont joués, et plus ils se conservent.
Cet instrument, donc le violoncelle, un peu contemporain, hein, de par sa création de Mozart, est-ce qu'il y a aussi... sa tessiture hein, qui est importante et qui s'adapte bien à ses compositions.
Exactement, le violoncelle se rapproche de la voix humaine. Voilà, c'est vrai que c'est un instrument qui touche en général, qui est assez sensible et proche de la voix humaine, aussi par le fait que c'est un instrument qui peut se déployer dans les parties basses, puisqu'il est né pour faire l'accompagnement des violons. Et en même temps, on a tellement développé la virtuosité du violoncelle que c'est un instrument aussi qui peut jouer dans l'aigu et être très virtuose, à l'instar du violon ou du piano ou de la flûte. Et de l'harpe aussi.
Il y a ce vibrato, certainement, aussi. Est-ce que cet instrument que vous possédez, quelle différence peut-on peut-être émettre avec ceux créés aujourd'hui ?
Ah, alors, on ne peut pas tellement opposer la lutherie ancienne et la lutherie contemporaine. Finalement, les instruments, comme je vous le disais, quand ils sont bien joués, ils mûrissent un peu tranquillement, comme le vin. Il y a une calcification du bois qui opère et les instruments sont de plus en plus résonnants et ont de plus en plus une densité de son incroyable, une projection de son incroyable. Et les instruments contemporains sont très bons tout de suite, un peu comme le vin nouveau. On se régale et ils auront en plus de ça le bénéfice du vieillissement. Et alors on ne pourra pas entendre l'accomplissement dans 100 ans, 200 ans, on ne sera plus là, mais les prochaines générations de musiciens, c'est sûr, pourront se régaler avec les instruments contemporains d'aujourd'hui.
Il y a une question aussi que je me pose, c'est l'utilisateur d'un instrument laisse-t-il aussi une empreinte mémorielle dans ce qui est la matière de l'instrument et est-ce que cette transmission de cet instrument, puisque vous êtes je ne sais pas combienième utilisateur, est-ce qu'il y a
Tout à fait, mais je pense que ce qui est le plus important en fait, c'est que le musicien fasse sonner son instrument et grâce à ça le faire évoluer en fait. Et je pense que plus on joue bien d'un instrument, plus l'instrument peut évoluer. Alors je ne sais pas par quel procédé chimique, on n'a pas trouvé encore, mais c'est vrai que les pores du bois, la façon dont il va être joué, il y a un impact fort sur son devenir en fait. Hein, oui, bien sûr. Après, je pense pas qu'on laisse une marque indélébile chaque musicien, c'est trop abstrait de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a une histoire avec un instrument. J'ai connu l'instrument que jouait Rostropovitch, qui était un Stradivarius magnifique. Bon, mais c'est différent maintenant. Rostropovitch est dans nos mémoires, mais il n'est pas vivant, mais il est dans nos mémoires, mais l'instrument sonnera différemment avec d'autres musiciens. Bon, pour l'instant, il n'est pas joué, par exemple, ça c'est autre chose, mais voilà, le plus important, c'est vraiment de bien faire sonner les instruments, mais un peu comme un piano, voilà, et puis chaque musicien a sa propre sonorité aussi.
Le festival Mozart dans la Drôme se constitue de 3 week-ends, l'un à Soues, et puis les deux autres dans la vallée de la Drôme, et la dernière, la Drôme provençale, pour le vendredi 17 juillet. Est-ce que vous serez présent à ces 3 week-ends sur diverses présentations ?
Alors moi, je joue uniquement le 12 juillet. Le 12 à Saillant, voilà, 12 juillet à Saillant. Et bon, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai passé pratiquement 40 ans de mes étés dans la vallée de Quin et j'allais tous les samedis au marché de Die, donc ça me rappellera mon enfance. Voilà.
Bonne fin de journée.
Voilà.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.